9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM comme chaque dimanche. C'est Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Benoît Falaise.
Bonjour.
Bonjour Kamel Chaban.
Bonjour.
Merci d'être à Beurre FM ce dimanche matin et nous allons parler de votre ouvrage qui vient de paraître. Parce que chaque élève compte, enseigner en quartier populaire, c'est un livre qui vient de paraître aux éditions L'Atelier et L'École des Lettres, puisque
absolument,
c'est un livre coédité par deux éditeurs, et nous allons parler d'éducation, vous vous en doutez. Vous présentez d'abord, tous les deux, vous présentez d'abord Kamel Chaban, vous êtes enseignant d'histoire-géographie au collège Gustave Flaubert à Paris. Vous avez enseigné de nombreuses années au sein de l'Académie de Créteil en zone d'éducation prioritaire et vous avez participé à l'ouvrage Territoire vivant de la République. C'était déjà aux éditions La Découverte en 2018. Vous, Benoît Falaise, vous êtes historien, spécialiste de l'école. Vous avez enseigné au collège, au lycée, à l'IUFM, qui est l'Institut de la formation des maîtres. Ça existe encore l'IUFM ?
Non, ça a été remplacé par l'ESPE, maintenant l'INSPE,
Voilà, et l'ESPE de l'Université de Cergy-Pontoise. Vous êtes auteur de thèse sur l'enseignement de l'histoire de 45 à nos jours. Et vous avez dirigé l'ouvrage Territoire vivant de la République, ce livre qui était paru donc aux éditions La Découverte. Ce livre, parce que chaque élève compte enseigner en quartier populaire, est un livre important. Je le dis déjà parce que je le dirai, je crois souvent, non pas par souci de répétition, mais parce qu'il me semble important de rappeler de quoi il est question dans cet ouvrage et de la nécessité de parler d'éducation aujourd'hui. Justement, il est question dans cet ouvrage d'une réflexion, de témoignages, d'expériences d'enseignants et d'enseignantes. Ils sont professeurs au collège ou au lycée, à Stain, à Tismons, Nantes ou Paris, mais aussi à Saint-Denis, à Creil ou à Rochefort. Plus de 20 expériences éducatives inspirantes sont présentées dans cet ouvrage, autant de manières d'aborder l'école autrement, on aura l'occasion d'y revenir. Ces enseignants sont regroupés dans un collectif, Territoire vivant, s'opposant sans doute à ceux qui parlaient de territoire perdu. Et vous allez, l'un et l'autre, Benoît Falaise
Kamel Chaban,
notre invité, parce que votre nom est un nom un peu pas compliqué, mais vous avez un double nom, alors je savais plus si je devais dire moi Kamel Chaban, et je me suis un petit peu arrêté, mais c'est pas grave. On va dire Kamel Chaban, on est
voilà,
d'accord, pardonnez-moi. Et donc, Benoît Falaise et Kamel Chaban, vous allez nous parler justement de ce qui fait que, dans cet livre, vous menez cette réflexion autour de, je ne sais pas si on peut dire l'école ou autrement, ou en tout cas l'enseignement autrement qui sera abordé au travers ces expériences. Le titre de votre ouvrage est fondateur, selon moi, parce qu'il aborde ce que vous dites déjà dans le premier chapitre, le fait que, si dans une classe, il y a 25 élèves, on va dire, chaque élève a une singularité et a une prise en compte que doit ou devrait avoir l'enseignant, l'enseignante. C'est un peu ça qui est dit au travers le titre. Comment on aborde un peu ce parce que chaque élève compte? C'est la singularité pour qu'il affronte bien l'école? Benoît Falaise.
Ce titre m'a rappelé une expérience personnelle quand j'étais jeune prof. Et je me suis souvenu que j'avais eu cette réflexion un jour à l'égard de grands gaillards qui étaient la plupart du temps plus grands que moi et qui n'avaient pas très envie de faire d'histoire-géographie. Et je me souviens très bien que je m'étais retourné en disant que j'étais pas payé pour la moitié de la classe, que tous les élèves m'intéressaient. Et j'ai dû faire un laïus qui devait ressembler à un sermon, à un prêche, ou je sais pas comment dire, pendant à peu près 5 minutes. Et ce qui m'a valu une paix royale d'ailleurs après, parce que justement je postulais ça. C'est-à-dire le fait que... On peut pas accepter, à partir du moment où on choisit ce métier d'enseignant, on peut pas accepter de laisser un gamin au fond de la classe parce qu'il est perturbateur, parce que, soi-disant, il a des capacités limitées. Notre travail, il est vraiment au quotidien, pour tous, pour chacun surtout.
Oui, c'est ça. Hein,
Kamel Chaban.
Ne jamais désespérer des élèves, y compris les plus difficiles. Hein, on peut avoir de belles surprises et on en a souvent. Parce que chaque élève compte, voilà, n'en laisser aucun d'entre eux, y compris les pires, hein, ceux dont on parle dans les médias, toujours avec des propos particulièrement négatifs, hein, voilà.
On n'en fera rien.
Ouais, voilà, par exemple, on n'en fera rien, et puis on est surpris de l'évolution des élèves.
Hein, et on en a fait quelque chose. Alors,
quelquefois, ils ont des personnalités fortes, hein, c'est vrai, et puis ils se comportent pas bien, quoi, mais ça fait partie de notre travail, voilà. Et on n'en oublie aucun, on essaye de porter le plus grand nombre vers la réussite.
Alors, vous parlez de principe d'éducabilité, c'est ça le principe d'éducabilité, c'est que de les mettre tous à égalité dans la classe, les élèves, d'avoir une approche singulière avec eux à chaque fois.
Alors,
vous venez de le dire, mais précisez un peu ce que veut dire s'occuper de tous, parce que c'est peut-être pas facile de s'occuper de tous dans la réalité. Il faut en avoir les moyens. On y reviendra peut-être de parler de la ce que comment sont accompagnés aujourd'hui les enseignants, les enseignantes dans ce travail précis que vous voulez mener pour. Pour la réussite des élèves.
Voilà, vous parlez de pédagogie différenciée, hein, même au sein d'une classe. Hein, il y a une aide individualisée qui se met en place. Hein, il y a des dizaines de milliers de collègues qui le font tous les jours. Hein, seulement, on n'en parle pas assez. Hein, donc, merci de nous permettre d'en parler. L'éducabilité, donc, tous les élèves, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, sont éducables. Hein, faut absolument pas désespérer de cela, hein, comme je le disais à l'instant. Et puis, en établissant une véritable relation de confiance avec eux, on arrive souvent à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Bon, après, on sauve pas tout le monde, hein, c'est vrai. Hein, ce serait mentir que de le dire. Mais il n'empêche qu'on a d'heureuses surprises, hein, avec, y compris, des élèves les plus compliqués. Hein. Il y en a un dans le livre qui s'appelle Cheikh Sidi B, auquel on prédisait un avenir funeste. Hein, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui...
Deuxième année universitaire,
voilà,
aujourd'hui.
Il est en L2, hein, en deuxième année à l'université à Paris-Créteil, et il s'en tire bien, hein, alors que c'était un élève poly-exclu. Il a été exclu plusieurs fois de différents collèges.
Je voudrais revenir sur la notion d'éducabilité. Alors, on n'est pas naïf, hein, c'est-à-dire que personne n'est naïf dans ce collectif, d'ailleurs.
Bien sûr.
Parce que tous les collègues qui écrivent depuis Territoire vivant de la République 2018 et ce livre Parce que chaque élève compte, sont des collègues qui sont plus près de la réalité sociale. Donc, il n'y a pas de naïveté, aucun angélisme.
Ils savent bien les difficultés
absolument.
Sociales,
et surtout,
réelles.
Ils y sont confrontés tous les jours. Donc, respect. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Par contre... C'est une question, j'allais dire, de principe. C'est-à-dire que si on dit l'école n'applique pas le principe d'éducabilité, bah à ce moment-là, qu'est-ce qui va être le marqueur pour dire bon bah ceux-là, effectivement, je pense qu'ils sont irrécupérables. C'est un terme qui revient souvent dans le débat public, qui est absolument insupportable à entendre. S'ils sont irrécupérables, qui va décider de qui est irrécupérable? Et en plus, on a effectivement des exemples de gamins qui, jusqu'à 16 ans, 17 ans, sont ingérables, et on le sait très bien, et à 23, 25 ans, on les retrouve, ce sont des gens admirables, qui ont en fait emmagasiné toutes les valeurs que l'école voulait inculquer, qui ont emmagasiné toute une série de réflexions sur eux-mêmes et sur la société. Donc, il n'y a pas de fatalité là-dessus. En tous les cas, combien même il y en aurait une minime pour certains élèves, de toute façon, nous n'avons pas le droit. C'est presque une question déontologique. C'est-à-dire que si on s'empêche de mettre en pratique le principe d'éducabilité, ben, faut changer de métier peut-être.
Oh. Alors, on reviendra peut-être en fin d'émission parce que sur le clin d'œil, mais en même temps, l'introduction que fait Nadir Dendoun, qu'on connaît bien ici à Beur FM, vous vous en doutez, sur effectivement le fait que lui, il était scolarité chaotique, il le dit, et puis aujourd'hui, voilà, il a monté l'Everest, il est redescendu, il a fait un film, il a fait un très beau livre, Hommage à son père, donc l'écriture l'a intéressé, etc. Il est aujourd'hui quelqu'un d'important qui compte justement et qui défend lui aussi l'école, parce que je l'ai aussi entendu parler voilà, c'est à la fois l'école lui a appris, il le dit dans son édito, et je trouve que c'est intéressant de dire un mot sur lui. Peut-être m'arrêter sur l'avant-propos, parce que l'avant-propos que vous écrivez ensemble, Kamel Jaban et Benoît Falaise, est important parce que il interroge sur effectivement ce que vous pensez de l'école aujourd'hui. Avons-nous échoué? Au bout de quelques pages, on s'aperçoit et que non, évidemment, vous n'avez pas échoué, vous avez tenté et vous avez forcé le fait que l'école soit autrement, soit novatrice, avec des expériences, etc. On vous retrouve dans un instant et vous nous racontez tout ça. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Kamel Chaban et Benoît Falaise et nous parlons de « Parce que chaque élève compte, enseigné en quartier populaire ». Ce livre vient de paraître aux éditions de l'atelier « L'école des lettres ».
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Vous êtes toujours sur Beurre FM et c'est Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Kamel Chaban et Benoît Falaise et nous parlons de Parce que chaque élève compte, enseigné en quartier populaire. Leur livre vient de paraître aux éditions de l'Atelier et l'École des Lettres. Vous l'aurez compris, il s'agit d'élèves, il s'agit d'éducation et c'est un livre qui aborde, je l'ai expliqué en première partie, peut-être une école autrement, une réflexion autour de comment enseigner aujourd'hui avec des expériences de près de 20 collèges et lycées de partout qui témoignent de justement comment aborder aujourd'hui l'école de manière novatrice. Je voulais qu'on commence et on va poursuivre justement avec donner un peu du contenu, en tout cas du sel à ces expériences, à les présenter, pas toutes, mais en tout cas certaines, mais parler de ce que vous dites en introduction dans ce que j'ai introduit en disant « Avons-nous échoué ?» C'est l'interrogation que vous avez l'un et l'autre et le collectif de manière générale que vous avez eu autour de l'état des lieux justement de l'école en voulant constituer ce, pas que de l'école, mais de la société peut-être, ou du regard qu'on porte, on y revient, enfin, vous nous l'évoquerez sans doute, sur l'école aujourd'hui.
Oui, alors c'est moins sur l'école, parce que quand on dit « avons-nous échoué », c'est « avons-nous échoué » avec le livre « Territoire vivant de la République » qui visait effectivement à proposer un autre discours que « Territoire perdu de la République », ce livre qui est devenu un slogan dans tous les débats publics, pour stigmatiser la banlieue, pour dire l'état des lieux catastrophique avec une déploration permanente.
On ne peut pas aborder tel ou tel sujet.
Voilà des sujets qu'on ne peut pas aborder, soi-disant, enfin, toutes ces séries de débats. En fait, est-ce qu'on a échoué à changer le regard, en fait? Et c'est vrai que c'est une interrogation parce qu'à certains moments on a pu être découragé. L'accueil en 2018 du livre avait été plutôt bon, mais là où notre livre s'est vendu très correctement, sachant qu'on gagne rien là-dessus, parce qu'évidemment on partage en 40, donc c'est, vous voyez ce que ça donne. Territoire perdu de la République, lui, a fait des centaines de milliers de ventes. Donc ça témoigne d'un problème de société qui ne concerne pas que la société et les milieux racistes et d'extrême droite. C'est pas du tout la question. Ça concerne l'ensemble. Le fait que on soit moins relayé par la presse, que évidemment tous les discours catastrophistes. Qu'est-ce qui fait que dans une société, on ne veut pas voir ce qui se passe dans l'école? Tout à l'heure, tout ce qui se passe de positif. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait qu'on présentait des choses novatrices. Je ne sais pas si c'est novateur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de collègues dans l'ombre, sans que personne n'en parle, qui font un boulot extraordinaire.
Oui, sur l'histoire, depuis longtemps. Oui,
alors, sur l'histoire, mais pas seulement. Je pense dans le premier degré, à l'école élémentaire. Enfin, il faut voir le dévouement des personnels. Et qui en parle? Voilà. Alors, je peux dire simplement en deux mots comment l'idée est venue, parce que c'est important. Il se trouve qu'à cette époque, je m'occupais de laïcité au ministère, juste après les attentats de Charlie Hebdo. Et on m'a demandé de venir, et j'ai été frappé de voir que dès qu'il y avait une parole provocante d'un élève, ça faisait la une de tous les journaux télévisés et de la presse nationale, et presse écrite, ou radio. Et que par contre, là où les élèves eux-mêmes, sans le chef d'établissement et sans les adultes, se mobiliser pour dire alors par exemple on est musulman mais on n'est pas terroriste, on est musulman et on est triste aussi, et ben ça n'était pas relayé. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui fait cet écart là dans la société à ne pas vouloir entendre cette jeunesse qui n'attend qu'une chose, c'est de savoir lire, écrire, travailler, apprendre des choses, réussir dans la vie, avoir un bon métier. Voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi reste une sorte de colère un peu, parce que je me dis on se gâche toute une partie de la jeunesse qui peut ne plus se reconnaître après dans cette société.
Kamel Chaban, vous voulez ajouter quelque chose sur justement ce regard?
Pour compléter ce que dit Benoît, c'est vrai qu'on est dans les quartiers populaires, on est dans une spirale infernale, hein, puisque ces quartiers créent une grande anxiété, hein, dans la société. Et les médias ont tendance à focaliser leur point de vue sur tout ce qui ne va pas. Bon, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. y compris dans l'école des quartiers populaires. Mais comme le disait Benoît, bien à cette aune-là, on refuse de voir les réussites et puis surtout, on refuse de voir toute cette jeunesse hein, qui est bien comme la jeunesse du pays. Hein. Il l'a dit, Benoît, elle veut réussir autant que les autres. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a de beaux exemples de réussite, et y compris tout n'est pas dans le livre. Hein, voilà, il le rappelait à l'instant, mais il faut vraiment insister là-dessus. Hein. Dans l'ombre des classes, des quartiers populaires, il y a de belles choses qui se passent, seulement on ne le sait pas, parce que les médias ne s'y intéressent pas assez, parce que ce n'est pas assez vendeur, ce n'est pas assez anxiogène, en fait. Voilà.
Mais moi, je me demandais, en lisant toutes ces expériences, ces initiatives que j'ai nommées novatrices, bien sûr qu'elles existent, Benoît Falaise, je suis d'accord avec vous, elles existent depuis bien longtemps, depuis des décennies même. Hein. Moi, j'ai grandi dans un lycée où Lucie Aubrac est venue, hein, c'était pas rien, et c'était il y a quelques décennies déjà. Tout ça pour dire qu'il y avait effectivement des enseignants, des enseignantes qui travaillent et qui œuvrent pour que l'histoire, les histoires d'ailleurs, soient aussi racontées, pour qu'elles soient accessibles, parce que la Shoah n'est pas que dans les manuels scolaires, mais elle est, et vous avez un très bel exemple dans le livre là, effectivement autour de la Shoah, où la classe va aller chercher des témoignages, des archives, et puis va revivre, entre guillemets, cette histoire, cette sombre histoire, et qui va leur faire. Voilà, ils vont réaliser que voilà l'importance de cette histoire, alors que dans d'autres temps, avec une page d'histoire, voilà, ça leur peut-être passer au-dessus de la tête, je sais pas. En tout cas, vous pouvez dire, mais c'est pareil avec l'esclavage, c'est pareil avec la guerre d'Algérie. C'est des pans de l'histoire qui sont importants. Et les pans d'histoire importants, ils sont pas que dans les livres d'histoire, ils sont aussi, ils s'ancrent aussi dans la réalité, et rendre la réalité. C'est rendre la proximité aussi de l'histoire pour les jeunes des quartiers, populaires ou non d'ailleurs. Mais en tout cas, ça les emprunte bien aussi de comprendre cette histoire, il me semble.
Oui, d'ailleurs, on est frappé à chaque fois qu'on travaille là-dessus de l'appétence des élèves. Ouais. Ils veulent savoir et ils veulent du vrai. Alors, ils peuvent provoquer pour voir si le prof en a en réserve pour pouvoir. Mais parce qu'ils essayent de valider, y compris ce qu'ils peuvent entendre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que il y a toute une série de questions qu'ils se posent et c'est vraiment à l'enseignant pour le coup d'apporter les réponses. Ce qui est très intéressant, c'est que quand le cours est réussi, les élèves comprennent, et on en a un exemple avec Clément Huguet dans le livre sur la Shoah. On se rend compte que les élèves, c'est plus l'histoire des Juifs, par exemple, pour la Shoah. C'est pas l'histoire des Noirs pour l'esclavage. Vous voyez, c'est plus comme dans ces catégories-là que ça se pose. C'est vraiment une question qui rejoint l'humanité tout entière. C'est universel. La souffrance n'est pas dépendante de l'origine, de la couleur de peau. La souffrance d'une mère qui perd ses enfants, d'enfants qui perdent leurs parents, des orphelins. Enfin, tout ça fait partie de notre humanité commune. Et là, on arrive à, dans ces situations de cours d'histoire, on arrive à faire sentir aux élèves quelque chose de fondamental qui nous unit tous. D'ailleurs, dans la conclusion, on a Philippe Mérieux qui intervient et qui dit l'éducation, c'est ce qui libère, évidemment, de ses ancrages personnels, pour apprendre à penser par soi-même et autres. Mais c'est aussi ce qui unit, c'est ce qui nous rassemble. Et la chance, enfin, en tous les cas, si tant est qu'on croit encore à l'école de la République, c'est de pouvoir, justement, et ça, on pourra en parler éventuellement, mettre tous les enfants dans la même école et de penser ensemble et de concevoir ensemble une réflexion générale sur l'humanité.
Kamel,
on construit un vrai récit commun à l'école, hein, voilà. Ouais. On établit une véritable histoire commune. Seulement, faut, comme le disait Benoît, faut être capable, quand on est enseignant, eh bien, d'adosser le contenu de son cours, eh bien,
au programme.
Au programme, et puis aussi aux dernières parutions scientifiques, hein, avoir des choses à dire, mais que ce soit solide en termes de connaissances. Après, à partir de là, on peut répondre aux élèves. Et on était dans l'éducabilité tout à l'heure. Si des élèves véhiculent des mémoires blessées ou des propos provocateurs, hein, parce que c'est quand même des ados ou des enfants en construction, donc ils vont y aller, hein, ils sont dans un testing permanent par rapport à leur enseignant. Si on n'est pas capable de leur répondre et de créer avec eux du lien, du commun, justement, en dépassant toutes les souffrances, mais aussi en réintroduisant les espoirs passés qui n'ont pas eu lieu, par exemple sur la guerre d'Algérie, eh bien, là, on échoue, quoi. Mais il y a des enseignants, on parlait de territoires perdus de la République tout à l'heure, qui sont dans une dénonciation, voilà, mais qui ne proposent pas de solution. Et qui, surtout, ne répondent pas aux élèves comme ils devraient. Hein, créons du lien. On est dans une république qui a eu une histoire suffisamment universelle pour que tout le monde puisse s'y reconnaître. Seulement, bah, pas de tabou, pas de questions sur lesquelles on sera fébrile. Au contraire.
Sur cette disponibilité, cette capacité qu'ont des enseignants, des enseignantes qui sont dans ce collectif et qui sont plus nombreux, bien évidemment, que le nombre que vous êtes à défendre et à promouvoir, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, à défendre et à produire autrement l'école, avec vos expériences, avec des initiatives. Moi, j'avais envie de vous questionner sur, en avez-vous les moyens? Vous en avez l'énergie, la volonté, à la fois idéologique, mais après il faut les moyens de l'administration qui vous suit dans vos établissements. Est-ce que ça suit tout ça? Parce qu'il faut être...
Alors, il y a un certain nombre de difficultés hein, en termes de moyens, évidemment, on ne le nie pas dans l'éducation nationale, mais si on en reste là...
On ferait rien.
Exactement, ouais, voilà. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas que les choses s'améliorent, hein, attention, voilà. Mais il n'empêche que les problèmes sont multiples, hein, aussi bien à l'intérieur de l'éducation nationale, mais surtout en termes sociaux, parce que ce sont des problèmes sociaux auxquels on doit faire face, hein, les relégations sociales, notamment dans les quartiers populaires.
Alors justement, les quartiers populaires, on l'a dit tout à l'heure, Benoît Falaisan le disait tout à l'heure par rapport à la stigmatisation qu'on fait des quartiers populaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que ça continue? Où on avance avec justement ce développement d'enseignants, d'enseignantes qui travaillent différemment pour être à l'écoute, considérant justement ces questions sociales que vivent les quartiers populaires. C'est une réalité, vous l'avez dit l'un et l'autre, où c'est important de dire que on vit, on fait l'école, mais on a aussi le social qui est là et qui est difficile aujourd'hui.
Alors on est en plein dans ces discours déclinistes, hein, force est de le constater, hein, avec la médiatisation qu'il y a autour. Bon, il n'empêche qu'après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou le redire autrement, hein, avons-nous échoué? Rien n'est perdu. Voilà, rien n'est perdu. Les enseignants continuent dans les quartiers populaires de faire leur travail, on le démontre dans notre ouvrage. Et parce que de toutes les manières, hein, les mots sociaux étant tellement importants en France, et en particulier dans les quartiers populaires, que cette question, on se la pose jamais, hein. Mais l'école tiendrait pas s'il n'y avait pas dans des établissements un certain nombre de piliers qui font face avec beaucoup de bravoure, beaucoup de courage. Hein. Faut rendre hommage à tous ces enseignants des quartiers populaires qui, dans l'ombre des classes, comme je le disais tout à l'heure, sans qu'ils soient médiatisés, continuent de faire le travail et portent leurs élèves vers la réussite et arrivent à changer des regards, hein, qu'on porte sur les élèves.
Benoît Falaise ?
Oui, c'est vrai que il y a l'énergie de certains collègues, ça c'est vrai, mais ça peut être aussi des collectifs. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire que ce qui est publié dans « Parce que chaque élève compte », ce sont des héros. Pas du tout. On n'est pas allé choisir les héros qu'on met à l'honneur. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus diffus et beaucoup plus complexe que ça. Je pense, récemment, je suis allé à Vitrolles, dans une école et un collège, où vraiment un collège coincé entre deux rocades d'autoroute. Hein, donc vraiment dans des conditions sociales difficiles. Mais l'équipe entière était portée vers la même ambition. Donc, mais on n'en parle jamais de ces gens-là. Qui font un travail remarquable et qui veulent pas quitter surtout le collège. Parce que, justement, il y a toute une équipe, tout un collectif qui permet une émulation permanente et les élèves le sentent. Parce que les élèves, à partir du moment où on les reconnaît, dans tous les sens du terme, hein, et qu'on leur dit, tu comptes pour moi et je vais travailler pour toi, je vous assure que ça change la donne. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le même rapport.
Une vraie relation de confiance, voilà, et où on applique au quotidien les valeurs de la République, dans des quartiers où, force est de constater, ben elles sont pas totalement appliquées, sinon on n'en serait pas là, hein, en termes de relégation sociale et de mots sociaux dont on parlait. C'est ça, les élèves, ils sont très sensibles, hein, évidemment.
Parce que chaque élève compte, enseignant quartier populaire, c'est le titre de l'ouvrage de nos invités ce dimanche matin. Je rappelle que je reçois Kamel Chabanet et Benoît Falaise. Ils sont tous les deux enseignants, une longue carrière d'expérience d'enseignant et de chercheur aussi, d'universitaire, pour nous présenter ce livre « Parce que chaque élève compte ». Enseignant quartier populaire, paru aux éditions de l'Atelier et l'École des Lettres. On les retrouve dans un instant pour la dernière partie de notre émission.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Voix au chapitre, comme chaque dimanche de 9h à 10h. Le rendez-vous ce dimanche matin est avec Benoît Falaise et Kamel Chabanet, et nous parlons de « Parce que chaque élève compte, enseignant quartier populaire ». Ce livre vient de paraître aux éditions de l'Atelier et l'École des Lettres. Nous aurions encore beaucoup à parler avec vous, Benoît Falaise et Kamel Chabanet, d'éducation, d'école, de toutes les thématiques qui sont abordées dans les différents chapitres de votre livre, parce que c'est important, le déroulé du livre, c'est des chapitres avec des thèmes. Il y a un thème qui est important, qui est abordé, c'est les mémoires. On l'a déjà évoqué avec la Shoah, mais la transmission des mémoires, la guerre d'Algérie, l'esclavage, tout ça est important pour la construction des élèves que d'avoir ce rapport à l'histoire. Je pense à une association au nom de la mémoire avec Mehdi Lalaoui, qui est réalisateur, qui a beaucoup travaillé, par exemple, on est à l'approche du 17 octobre 61, et qui a réalisé le premier documentaire sur le 17 octobre 61. Et il était venu à Beurre FM nous en parler, et il racontait que les élèves étaient surpris qu'on n'en parle pas dans leur livre d'histoire, par exemple. On parlait de la guerre d'Algérie, mais il n'était jamais évoqué le... Voilà, il y a des absences aussi dans les manuels d'histoire, hein, autour de ces mémoires. Peut-être Benoît Falaise pour parler de ça, ensuite Kamel par rapport à...
Oui, je vole la parole à Kamel Chabanet qui va dire beaucoup de choses sur la pédagogie des mémoires, mais juste une chose, ça a beaucoup, beaucoup évolué.
On
ne peut plus dire que dans les manuels scolaires, il n'y a rien sur le 17 octobre. C'est justement parce qu'il y a eu le travail de Mehdi Lalaoui que précisément les écritures de manuels scolaires ont évolué.
Et professeurs d'histoire qui se sont mobilisés aussi, il y a une mobilisation à la fois citoyenne et d'enseignants,
oui,
pour que l'histoire soit écrite.
Et puis, une chose ce qu'explique très bien Pascal Blanchard, et que on peut, enfin, avec mon âge avancé, je peux en témoigner, c'est que dans notre cursus universitaire, nous n'avions pas la question coloniale. C'était extrêmement rare d'avoir des cours sur la question coloniale. Et donc, quand on est jeune prof et qu'on découvre les travaux de Mehdi Lalaoui, Einaudi, la question avec Raphaël Branche, Sylvie Thénault sur la torture, sur la violence d'État en Algérie, évidemment, on s'en saisit. Ce sont des thèses sérieuses, scientifiques, et c'est pour ça que ça évolue. Hein. Donc, je nuance vite parce que je veux pas qu'on pense que dans les manuels, on en parle pas, c'est faux.
Non, on en parle maintenant, bien sûr.
Oui, on
Kamel
en parle
Chabanet, justement, sur cette mémoire.
Alors, vous faites bien de parler de Mehdi Lalaoui, à qui on peut rendre hommage, hein, parce qu'il a été précurseur. Il a mené un vrai travail d'histoire et de mémoire en parlant de questions qui fâchaient beaucoup. Hein, moi, personnellement, comme il le dit Benoît, hein, jeune prof d'histoire à l'époque, hein, ça ne nous rajeunit pas, c'était il y a 30 ans, avec également le livre de Einaudi.
La bataille de Paris.
Voilà, ils nous ont montré la voie à suivre. Alors, en fait, je vous le disais tout à l'heure, hein, on établit, sans démagogie, un vrai récit commun, une histoire commune, où on essaie justement d'intégrer à ce récit, hein, donc récit intégrateur, un récit national, où on intègre toutes les mémoires, y compris les mémoires blessées, hein, notamment celles du 17 octobre, hein, pour reprendre un des titres, mais également on parle d'affaires comme celle de la révolte des Mocranis en 1871, hein, qui a conduit des centaines de Kabyles à être exilés en Nouvelle-Calédonie. Ils n'ont pas pu revenir, ils ont fait souche, ils y sont encore, hein. On en parlait hors antenne tous les deux. Donc c'est toutes ces mémoires qu'on intègre au récit national, voilà. Et les élèves, ils sont sensibles. Mais comme je le disais tout à l'heure,
c'est une valorisation de leur histoire aussi pour celles et ceux qui sont issus d'immigration. On peut noter ça quand on rappelle à ces jeunes réalité de l'histoire.
Voilà, on en parle.
Qui n'est pas que leur histoire d'ailleurs, qui est l'histoire de France en même temps.
Alors exactement, voilà, qui est une histoire commune en fait.
Hein, on est d'accord.
Un passé commun, voilà. Bon, un passé commun qui a laissé des blessures quelquefois. Encore béante, hein, voilà. Mais il n'empêche que on en parle, on les intègre, et c'est libérateur pour les élèves de pouvoir porter ces mémoires familiales, une mémoire blessée, que leurs propres parents n'ont pas pu porter. Voilà. En les intégrant, bah, on crée du lien, on renforce la cohésion sociale et on se crée un véritable avenir commun, quoi, plus solide et une vie ensemble, une vraie vie ensemble.
Dans un des chapitres qui me semble aussi intéressant d'évoquer, c'est celui de la parole, donnée aux élèves par le théâtre, par ces exercices un petit peu qu'on appelle les temps ou l'élocution. Là. Voilà, c'est important pour les élèves de s'exprimer. Dans des collèges, des lycées, il y a ce travail théâtral, ce travail artistique aussi avec une exposition de photos où ils se retrouvent. On est à la marge d'un programme, on va dire, mais en même temps, on est très fortement ancré dans une éducation.
Non, mais c'est central. C'est central. Et d'ailleurs, dans deux ou trois articles, on le voit, des élèves dont on ne pensait rien, des élèves pour lesquels on s'inquiétait, en fait, se révèlent soit le concours d'éloquence, puisqu'il en est question, soit la prise de parole théâtrale. Quand on a fait la sortie au Collège Berlioz, dans le 18e arrondissement, le 14 septembre dernier, la sortie du livre, il y a une inspectrice de l'Éducation nationale qui a fait un magnifique article sur la Guyane, où toutes les écoles sont en réseau d'éducation prioritaire en Guyane. Hein. Donc c'est vraiment un milieu social très, très, très faible. Et ben, elle est venue avec une jeune qui ne pas... émigrée en Guyane, qui ne parlait pas français et qui est aujourd'hui à la Comédie française. Donc vous voyez, ça crée des déclics en fait. Dès qu'on donne la parole aux jeunes, dès qu'on leur fait confiance, eh ben ils se mettent à produire des discours. Pierre Coste, dans le livre, qui est au Mans, dans un quartier très sensible, en REP+, donc l'éducation prioritaire, il m'avait montré des vidéos de gamins qui parlaient à peine français et commençaient à expliquer pourquoi ils étaient contents d'être en France. Je vous assure, ça change la donne. Mmh. Là encore, c'est-à-dire qu'on a un vrai regard différent sur les gamins. Et en plus, ça leur donne confiance. C'est-à-dire que du coup, ils se disent, ah, je peux réussir. Les gens m'ont applaudi. Les gens ont estimé mon travail ou ma réflexion ou ma manière de parler.
Et c'est pour ça que je parlais de valorisation à la fois dans leur personnalité et dans leur histoire. J'allais pas oublier d'en parler, mais il y a quand même quelques photos qui sont des belles photos aussi qui témoignent de ces expériences des uns et des autres, hein, des enseignants qui racontent, qui restituent leurs expériences, qui sont intéressantes à voir aussi.
Oui, on a voulu, enfin c'est les éditrices qui ont voulu montrer d'un peu visuellement à quoi ça ressemblait. Et c'est vrai que quand on voit les photos, d'ailleurs même la photo de couverture, il y a un enthousiasme, il y a une énergie, il y a une joie de vivre. Parce que l'école en banlieue, c'est pas que la violence et les incivilités. Hein. Mmh. Et puis, ça pourrait nous entraîner bien loin, mais il y a bien des incivilités dans d'autres établissements qui ne sont pas de quartier populaire, pour lesquels on n'en fait pas la une d'actualité. Je peux revenir, Samia Messaoudi, sur ce que disait Kamel Chaban fort justement. C'est effectivement un récit commun qu'on fait quand on fait l'histoire. C'est pas leur histoire, c'est vraiment
c'est une histoire commune. On est d'accord.
Je pense toujours à ce que disait Jamel Debbouze quand Indigène est sorti, qu'il avait produit en partie. Il avait dit, moi, si on m'avait dit à l'école que mon grand-père avait lutté contre les nazis, mais j'aurais été super fier. Voilà, c'est typique ça. Ouais. Et du coup, ça intègre Jamel Debbouze à toute la communauté française,
à la grande histoire,
et puis un combat pour les valeurs en plus. Ouais. Donc là, on n'est plus dans des discussions de café de commerce. On est vraiment dans la vérité. Et en plus, ça permet, Kamel Chaban est trop modeste pour le dire, mais ça permet de faire non seulement un récit commun, mais un récit du complexe. C'est-à-dire qu'on aide les élèves à réfléchir. Parce que c'est pas simple. Il y a la question des harkis, par exemple. Il y a la question et l'engagement des harkis. On sait bien qu'il est beaucoup plus complexe que la simple dénomination de traître, comme on dit de temps en temps. C'est infiniment plus complexe. Et c'est en faisant cette histoire dans un récit commun qu'on permet de voir toutes les complexités.
En tout cas, vous en parlez avec détermination l'un et l'autre, Kamel Chaban et Benoît Falaise, de cette... j'allais dire défense de l'école, de la prise en compte des élèves, de tout ce que vous voulez porter comme valeur de la République aussi, parce qu'on l'a, voilà, l'école elle est républicaine, donc on est vraiment dans des valeurs qui sont celles qui sont sur les frontons des mairies, liberté, égalité, fraternité, c'est aussi ça, la prise en compte pour les élèves de ces valeurs-là. Merci à l'un et l'autre d'être venus ce dimanche matin à Beurre FM nous présenter Parce que chaque élève compte, enseigné en quartier populaire. C'est paru aux éditions de l'Atelier et l'École des Lettres. Et c'est la contribution d'un certain nombre d'enseignants, d'enseignantes. Ils sont pas les seuls et ils sont pas des héros, vous l'avez dit, Benoît Falaise, et je retiens, ils sont nombreux et j'espère de plus en plus nombreux à enseigner autrement. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. Au revoir à tous, au revoir à toutes. D'ici là, portez-vous bien.
Merci Beurre FM.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.